L'Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
Il est 8h44 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit Libre avec Jean-Marie Colombani et Christophe Barbier. Je vous pose une question. À quoi joue l'exécutif? On a eu cette sortie d'Elisabeth Borne sur le RN et l'héritage de Pétain. Un recadrage en Conseil des ministres du président sans jamais citer la Première ministre. Un recadrage qui fuite volontairement. Une Elisabeth Borne qui explique ensuite que l'on a mal interprété les propos du chef de l'État. Alors je vous repose la question et je commence avec vous, Christophe. À quoi joue l'exécutif?
À être en instance de divorce. Ouais. Et donc, ça peut prendre du temps parce qu'on veut faire porter la faute à l'autre et puis on espère toujours que ça puisse redémarrer, puis on gère le calendrier. La responsabilité, évidemment, première est celle d'Emmanuel Macron. S'il veut changer de cap, s'il veut changer de direction, il doit changer de Premier ministre, le dire vite et fort. Il a donné 100 jours à Elisabeth Borne pour avoir une feuille de route claire, précise. On n'a pas la feuille de route claire, précise. On ne voit pas où cette majorité relative peut infléchir une vraie politique et un changement de cap. Donc, il devrait en tirer les leçons et dire d'accord, bah je réoriente, je nomme un nouveau capitaine avec un nouvel équipage et on voit dans quelle direction on va. Il faut le faire vite, parce que si vous vous retrouvez avec un changement de gouvernement en septembre, avec un budget qui aura été rédigé, négocié, calculé par l'équipe précédente, bah vous nommez une équipe pour rien, puisque pendant 3-4 mois, cette équipe, et notamment ce nouveau Premier ministre, il va faire quoi? Utiliser le 49-3 à l'Assemblée pour faire passer un budget qui n'est même pas le sien. Donc le président doit dire vite, avant le début juillet, s'il change d'équipe. Et pourquoi? S'il ne le fait pas, autant garder Elisabeth Borne avec cette majorité impossible jusqu'à l'après-Jeux Olympiques. On passera les sénatoriales, on passera les européennes, on passera les Jeux Olympiques et on verra à ce moment-là, dans un horizon présidentiel, comment la France peut trouver éventuellement un nouveau souffle. Pendant ce temps-là, elle gérera les affaires courantes du mieux qu'elle pourra avec une majorité très, très, très complexe. Ça n'empêche pas de voter certaines lois, il y a des textes qui passent, ça n'empêche pas de chercher des accords sur des choses importantes comme sur l'immigration, ça limite évidemment l'action. Mais on a vraiment besoin d'une réponse avant le 14 juillet.
Vous parliez d'amateurisme, Jean-Marie, pour qualifier finalement ce qui se passe au sommet de l'État.
Oui, et au-delà de l'amateurisme, on a même l'impression que le président de la République n'apprend pas finalement, parce qu'il reste dans un... Alors, il peut éclater de rire quand si on dit ça, parce que quand même, j'ai été élu une première fois, j'ai été réélu, ce qui est totalement inédit sous la Ve République, hors cohabitation. Oui. Donc, voilà, il peut nous faire la leçon de ce point de vue-là. Et pourtant, cet amateurisme est là, et ce non-professionnalisme qui fait qu'on choisit Madame Borne, en effet, pour ensuite lui reprocher d'être ce qu'elle est. On lui reproche d'être, au fond, une gestion technocratique, alors qu'elle est technocrate, elle n'est pas politique. Donc, en même temps, il faut, je pense, avoir toujours en tête qu'il y a deux éléments qui pèsent énormément sur la situation politique et qui, au fond, gênent les acteurs et gênent principalement l'exécutif. Un, il n'y a pas de majorité. Oui. C'est une majorité relative. Et nous n'en avons pas, ou très peu, l'expérience. Il faut remonter, en effet, à Michel Rocard et à tout son talent pour retrouver
la situation. Il n'y avait pas le même écart avec Rocard.
Il n'y avait pas le même écart, mais encore que entre Mitterrand et Rocard, vous savez, Mitterrand avait nommé Michel Rocard pour lever l'hypothèque Rocard. Donc, c'était aussi une situation au départ extrêmement conflictuelle. Mais donc, majorité relative, donc difficulté à chaque fois. Et vous vous heurtez à la réalité de gens qui ne veulent pas faire alliance avec vous parce que ils veulent être les premiers opposants. Ça, c'est la règle dans toutes les oppositions. Et le deuxième élément qui est très fort, à mon avis, et qu'on sous-estime, c'est que Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Et que donc, d'ores et déjà, il est dans la tête de beaucoup de politiques, fini. Et donc, il n'est plus un acteur à 100%. Et donc, on se projette déjà au-delà de lui, et certains veulent enjamber aussi vite que possible, et donc faire voter une motion de censure très vite, ainsi de suite. Et dans ce contexte, il est particulièrement absurde pour le président de la République d'affaiblir son Premier ministre, comme il l'a fait. Il a affaibli, objectivement, son Premier ministre, en lui faisant la leçon de façon presque humiliante, puisque c'était devant tous les membres du Conseil des ministres, donc vis-à-vis de gens auprès desquels Elisabeth Borne est censée d'exercer une autorité.
Jean-Marie, il y a deux, pour vous, il y a deux Macron. Il y a le Macron national et puis il y a le Macron à l'international.
Oui, mais comme tout président, il est confronté au fait que l'essentiel de sa fonction, c'est le rang de la France et ce qui se passe hors des frontières, ce qui se passe en Europe, où la demande, il faut toujours le rappeler, être élu président de la République en France, ça n'est pas seulement être élu président de la République, c'est être élu coprince d'Europe. Et donc, c'est vraiment une charge essentielle. Et bon. Et d'autre part, vous voyez bien ce qui se passe pas si loin de chez nous, avec la guerre en Ukraine. Et donc, il y a un moment existentiel pour l'Europe elle-même. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a quand même un cap, il a une stratégie, et il a développé tout au long de ses mois au pouvoir des actions qui confortent ce cap vers une autonomie stratégique européenne. C'est indispensable.
Je reviens à la France avec vous, Christophe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui de plan B.
Non. Il n'y a pas de plan B, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans la classe politique autour de Macron qui puisse lui garantir une majorité absolue à l'Assemblée. Donc quelqu'un qui déplacerait une quarantaine de députés LR vers le camp présidentiel sans perdre sur l'aile gauche de la Macronie. Ce magicien-là, il n'existe pas. Alors vous avez deux solutions. Vous nommez quelqu'un d'hyper proche qui va essayer, texte par texte, de se battre avec une énergie nouvelle au service de ce président qui en effet est affaibli puisqu'il ne peut pas se représenter. Et là, une hypothèse comme celle de Julien de Normandie, qui en plus est intacte puisqu'il n'a pas fait partie de cette expérience gouvernementale, et il a laissé plutôt un bon souvenir dans le quinquennat précédent, ça pourrait être une carte. Soit vous nommez un des présidentiables de 2027, et donc vous le laissez défendre sa carte, ça peut être Darmanin, Le Maire ou un autre, ou Le Cornu, allez-y, mais c'est déjà ouvrir l'après-Macron que de faire ça. Soit vous cherchez un grand sage, quelqu'un qui, parce que sa carrière est derrière lui, va réussir à trouver une majorité d'apaisement. Alors vous pouvez vous dire qu'un Gérard Larcher, ou un Jean-Pierre Raffarin, ou un Jean-Yves Le Drian, pour citer un nom de gauche, pourrait être cet homme-là qui dirait aux députés, écoutez, moi j'ai pas d'avenir, j'ai pas de plan de carrière, essayons d'améliorer la situation de la France entre gens de bonne volonté. Honnêtement, peu de chance qu'un de ces profils arrive à regrouper une majorité à l'Assemblée nationale.
Mais en même temps, Elisabeth Borne n'a pas de plan de carrière.
Non.
Elle est, de ce point de vue-là, assez libre. Mais et donc, c'est l'usage qui, en effet, si j'ose dire, est de ce point de vue-là un peu plus aberrant.
Elle a perdu sa force sur les retraites, elle a perdu sa vitalité.
Oui, est-ce qu'Emmanuel Macron ne lui reproche pas finalement d'être plutôt à gauche? Parce qu'on sent bien que sur les grands sujets.
Surtout, elle lui reproche, ce qu'évoquait Christophe à l'instant, d'avoir raté l'opération retraite. Ouais. Puisqu'elle a demandé du temps, elle a obtenu du temps, elle a demandé le temps pour passer un accord avec les Républicains. Elle a passé cet accord avec les Républicains et puis la mayonnaise n'a pas pris et ça s'est délité.
C'est elle qui, depuis qu'elle a perdu cette bataille des retraites, c'est elle qui se marque à gauche. Elle veut tomber à gauche. Si elle doit être virée, elle veut être virée par la gauche. C'est-à-dire, elle prend parti pour les manifestants contre Total. Les écolos, elle dit, c'est leur devoir d'alerter alors qu'ils empêchent l'Assemblée Générale de Total. Elle dit que le 49-3, faut plus l'utiliser. Elle vient dire que le RN, c'est l'héritier de Pétain. Elle a retrouvé Elisabeth Borne de gauche qu'elle était parce qu'elle veut sortir par la gauche.
Alors justement, il y a ce rapport de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères, un rapport très gênant pour Marine Le Pen et le Rassemblement National, accusé d'être une courroie de transmission du pouvoir russe. Là, on est dans le cas de l'arroseur arrosé, puisque cette commission, elle avait été demandée par Marine Le Pen, Christophe.
Ah oui, ça devait être un sas de décontamination. Tout le monde y passait, on allait voir que la droite était dans la main des atlantistes de l'OTAN, qu'eux avaient été évidemment proches du RN, que d'autres s'étaient d'autres accointances. Et donc, ça y est, c'était derrière eux. Bah oui, c'est en effet un peu l'effet boomerang, l'arroseur arrosé. On découvre que depuis 2014, avec le pseudo-référendum en Crimée, le prêt accordé par une banque au RN, des liens profonds ont été constitués de triple nature. D'abord, ce lien financier, le prêt n'est pas toujours pas complètement remboursé. Le lien politique avec cette poignée de main du 24 mars 2017, Poutine recevant Marine Le Pen. La photo revient, elle était dans le track présidentiel de Marine Le Pen en 2022.
Ouais.
Et puis, une sorte de lien psychologique. Parce que le modèle du pouvoir autoritaire avec un pays en ordre bien tenu, c'est ce que nous a vendu quand même Marine Le Pen. Et on voit que c'est Erdogan, que c'est Poutine, c'est des gens qu'on ne désire pas. Donc il faut qu'elle arrive à changer cette image. Et évidemment, ce rapport vient à mal nommer.
Jean-Marie, il aura des conséquences, j'allais dire, politiques au moins auprès de l'électorat ou pas ?
A priori, non. Auprès de son électorat, non. C'est un électorat, en effet, que l'on dit, et qui est vraiment populaire et qui a en tête des préoccupations autres et j'allais dire, de vie quotidienne. De climat dans le pays, ainsi de suite. Mais moi, je reste sur ce sujet marqué par... Vous savez, il faut toujours faire très attention à ce que nos politiques disent à la presse étrangère. Parce qu'ils parlent beaucoup, très souvent, plus vrai que chez nous. Et Marine Le Pen a donné récemment une interview à un grand journal italien, Il Corriere, ou à La Repubblica, je pense plutôt, que je garde en tête parce que ça m'a considérablement marqué. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, attention aux Italiens, elle dit, attention, je ne suis pas la sœur jumelle de Madame Meloni. Madame Meloni, dont on voit le parcours aujourd'hui, qui est totalement intégrée dans les instances européennes et dans le jeu européen, au point de demander une politique européenne de l'immigration. je ne suis pas la sœur jumelle de Madame Meloni, je suis fidèle à Matteo Salvini. Qui est Matteo Salvini? C'est le plus populiste des populistes.
Oui.
Et elle ajoute, il est anti-Europe, anti-OTAN. Donc voilà. Donc si le cœur business en matière de stratégie extérieure, c'est cela, Marine Le Pen, alors on peut considérer que nous sommes en danger de changement d'alliance ou de bouleversement que peut-être une majorité de Français ne souhaite pas.
Il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on parle des retraites. On pensait que c'était sur le point tranquillement de s'endormir et de passer à autre chose. Pas du tout, puisque la semaine prochaine on a 2 événements et 2 rendez-vous très importants. Une manifestation, une journée de mobilisation le 6 juin et puis cette abrogation de la loi à l'Assemblée nationale, en fait cette tentative. Christophe, on a remis un frein dans la machine.
Oui, le deuxième pétard semble désamorcé puisque la commission des affaires sociales a enlevé l'article 1 de cette proposition de loi, le retour à 62 ans. Il va donc être proposé à nouveau par amendement jeudi prochain et la présidente brandira à l'Assemblée l'article 40 et donc normalement la proposition de loi Liotte, elle est sous contrôle de la majorité. En revanche, mardi, la grève, ça on ne sait pas trop comment ça peut tourner. Beaucoup de parlementaires de la majorité disent sur le terrain, les Français nous en veulent parce que cette réforme est impopulaire, mais ils ont tourné la page. Maintenant, ils parlent inflation, ils parlent salaire, ils ont tourné la page. Je pense que c'est vrai, je pense que les Français qui ont la mémoire longue vont pratiquer ce qu'on appelle la clause de revoyure. C'est-à-dire qu'au moment de voter aux européennes en 2024, mais surtout à la présidentielle 2027, le marqueur retraite sera très puissant. Ce qu'auront dit ou n'auront pas dit les leaders, le silence de Wauquiez ou la position des macronistes, tout ça, il y aura un prix à payer pour les politiques, mais ça sera en 2027.
Oui, on peut rappeler qu'en 2010, Nicolas Sarkozy fait accepter une réforme des retraites, qui est aussi déjà le décalage de 60 à 62 ans pour l'âge de la retraite. 2 ans plus tard, il est battu à l'élection présidentielle, donc on peut tout à fait avoir cela en tête. Mais il faut regarder pour savoir les choses, enfin pour essayer d'entrevoir ce qui peut se passer, comment travaille l'intersyndicale. L'intersyndicale, elle travaille déjà sur d'autres sujets que les retraites. Elle va mettre sur la table des sujets qui concernent la vie au travail, qui concernent la réforme de l'assurance chômage, qui concernent beaucoup de dossiers qui sont des dossiers lourds et qui montrent qu'ils se préparent en effet à passer à autre chose.
Mais l'intersyndicale, est-ce qu'il y aura encore une unité? Parce que questions-là de travail, on sent quand même que entre la CGT et la CFDT, on n'a pas tout à fait le même point de vue.
Bien sûr, mais il y a au moins une volonté commune d'engager le fer sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets lourds.
Christophe.
Ils seront d'accord sur le menu, ils ne seront pas d'accord sur les sauces.
Ouais.
Il va y avoir une volonté des nouveaux dirigeants.
C'est important les sauces.
C'est très important en gastronomie, en politique. On voit bien que Sophie Binet, qui vient du PS, c'est inédit à la CGT, mais qui est tenue par les radicaux, va vouloir marquer de son identité propre les mois qui viennent. Et Marie-Lise Léon, qui va prendre la tête de la CFDT, devra faire la même chose. Donc on aura peut-être des surprises. On a eu la diversité dans l'unité, on aura peut-être l'unité, mais dans la diversité.
C'est assez joli comme formule. Merci Christophe Barbier, merci Jean-Marie Colombani dans Esprit Libre pour ce vendredi. Je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end. Il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité.